Père Nicolas Sautreau, bonjour.
Bonjour Sandrine, bonjour à vous tous. Alors on est parti ?
Oui, nous vous écoutons.
Parfait. On fera l'appel aux questions après, si vous voulez. Il y en a une qui est arrivée sur l'Eucharistie et sur cette période un peu particulière qu'on est en train de vivre par rapport à la communion eucharistique, par rapport à la célébration de la messe. Et parmi les nombreuses réponses que j'ai entendues, il y en a une qui est très belle, qui met en lien l'épreuve que nous vivons avec la préparation de notre première communion. Les semaines ou les mois que nous avons vécues avant notre première communion et comment nous pouvons spirituellement nous replacer dans cette atmosphère, dans cette ambiance, dans ce temps particulier qui a précédé notre première rencontre avec le Seigneur Jésus dans l'Eucharistie, et nous dire que notre prochaine communion, nous pourrions d'une certaine manière faire un peu la promesse au Seigneur, qu'elle ressemblera un peu à notre première communion en matière de qualité de la préparation, d'attente, de soif, en qualité de foi aussi, mais peut-être aussi en qualité d'action de grâce juste après cette communion eucharistique, peut-être tellement attendue. Et ça met un lien immédiat avec ce que nous allons écouter du Père Faber ce soir sur le grand thème de l'action de grâce qui nous occupe déjà depuis plusieurs semaines et qui se particularise en action de grâce juste après la communion eucharistique. Voilà. Donc le Père Faber, comme vous vous en souvenez probablement, a découvert l'Eucharistie dans la deuxième partie de sa vie. Lui a été à un moment même dans la mouvance évangélique, donc toujours au XIXe siècle, dans laquelle il n'y avait pas cette participation à l'Eucharistie. Et donc c'est un homme de la maturité qui se prépare à cette Eucharistie, à cette communion eucharistique, et qui va découvrir, alors qu'il est déjà en possession d'un très grand bagage spirituel et théologique et historique, qui va découvrir ce que peut être l'action de grâce après la communion dans l'Église catholique. Ça explique peut-être aussi une partie de sa vigueur, parfois même un petit peu de sa force, de sa grande force, lorsqu'il parle de ce sujet, de l'action de grâce après la communion. S'il y a un moment où la reconnaissance doit nous rendre silencieux, doit nous rendre profondément silencieux, c'est celui où le Créateur daigne accabler sa créature du don miraculeux de lui-même et où il est réellement en nous. Alors peut-être que le verbe « accabler » a résonné très fort dans votre âme, je pense que c'est bien traduit. C'est l'expérience de quelqu'un comme le Père Faber, une forme d'accablement face au poids de la grandeur du mystère de la communion eucharistique. C'est pour ça qu'il dit « Le Créateur daigne m'accabler du don miraculeux de lui-même ». Et on va revoir un peu plus loin que le fait que ce soit Jésus lui-même et non pas la grâce de Jésus ou les dons de Jésus ou l'amour de Jésus est très très important. C'est le Christ en personne, ce ne sont pas les dons du Christ, c'est le Créateur lui-même qui fait don de lui-même. À cause de cette particulière excellence du moment qui suit la communion, le Père Faber nous dit que les écrivains spirituels nous exhortent à ne pas utiliser immédiatement un livre après la communion. Donc à ne pas lire quelque chose après la communion. Alors peut-être que ça vient bousculer de saintes habitudes chez quelques-uns de nos auditeurs, mais il y a là une belle recommandation. Alors comme c'est une recommandation forte, le Père Faber se cache derrière des écrivains spirituels plus anciens, plus réputés, plus saints, des écrivains canonisés, en disant oui, ce n'est pas une bonne habitude, d'après cette opinion assez largement répandue chez les auteurs spirituels, ce n'est pas une bonne habitude que de lire quelque chose pour faire action de grâce après la communion eucharistique. Même relire l'antienne de la communion, même relire ou repenser à l'évangile du jour, même lire un commentaire ou une prière écrite, eh bien non, il nous dit, alors il s'avance, il est courageux, il prend ses responsabilités, il dit « moi je suis totalement du côté de ceux qui disent cela, eh bien dans cette circonstance de la vie spirituelle, non, il ne faut pas ouvrir immédiatement un livre, mais il faut s'entretenir intimement avec Jésus qui est dans notre cœur. » Voilà. Et il plante le décor de ce qui est pour lui la juste action de grâce après la communion. Nous aurons certainement quelque chose à dire au Seigneur Jésus, ou lui au moins nous parlera dans le profond silence de notre cœur si nous voulons seulement l'écouter. Alors, ce grand thème de la parole du Verbe, qui est une parole dans le silence profond de notre âme et qui n'est pas une parole articulée, mais une parole qui, comme dans le récit de la création, une parole qui est divinement performante. Lorsque le Christ ressuscité et glorifié dans notre âme nous dit qu'il nous aime, son amour grandit en nous, son amour est infusé en nous. C'est jamais uniquement de l'ordre du sentiment, on est dans l'ordre de l'action divine. Donc, soit nous adressons une parole au Seigneur Jésus, et c'est là que ça va être très intéressant de voir les orientations que peut nous proposer notre auteur, soit nous entrons dans un silence encore plus profond et nous nous laissons emporter par la parole silencieuse du Verbe. Alors là, nous retrouvons notre bon praticien, notre homme de l'expérience, et il sait que nous secouer un peu, ça ne peut pas nous faire de mal dans ce domaine de la spiritualité, dans ce domaine de la pratique spirituelle. Toutefois, que se passe-t-il alors en réalité ? Alors, c'est la réalité que le père Faber veut souligner. Il ne dit pas que c'est tout le temps comme ça. Si la ferveur et la régularité avec lesquelles nous faisons notre action de grâce après la communion nous indiquent la mesure de notre amour pour Jésus, alors rien n'est plus affligeant que ce qui se passe en réalité. Pour la plupart d'entre nous, donc il s'agit de la plupart d'entre nous, alors on a envie de répondre au père Frédéric, mais alors quel est votre échantillon? Vous travaillez sur combien d'années d'expérience? Comment est-ce que vous pouvez nous dire cela? Ou bien est-ce que c'est encore une fois toutes vos lectures que vous avez rassemblées, toutes vos analyses, tout ce que vous avez pu glaner comme expérience et comme science spirituelle? Comment est-ce que vous pouvez dire il s'agit de la plupart d'entre nous? La réponse du père Frédéric sera assez simple, ça pourrait bien être de nous dire « Écoutez, je suis en train de prêcher, je suis en train de vous faire un sermon spirituel, donc acceptez qu'il y ait une part d'emphase, qu'il y ait une part d'exagération, parce que c'est le moyen de vous faire réagir. » Donc, pour la plupart d'entre nous, s'il y a dans la vie un quart d'heure ennuyeux, fatigant, également stérile en œuvre et en résultat, c'est celui que nous consacrons à ce que nous appelons notre action de grâce après la communion. Un quart d'heure. Alors, peut-être connaissez-vous le thème du quart d'heure du curé d'Ars avant la messe. Donc le curé d'Ars demandait vraiment avec beaucoup de conviction, beaucoup de douceur comme toujours, mais beaucoup de conviction, beaucoup de fermeté, que personne ne vienne le déranger un quart d'heure avant qu'il ne monte à l'autel pour célébrer la messe. Il disait que c'était le minimum, ce quart d'heure, pour se préparer à un événement aussi immense, aussi infini. Là, le père Faber nous parle du quart d'heure après, après la communion, et ça semble très généreux. Je ne sais pas quelle est votre pratique à vous, mais un quart d'heure d'action de grâce après la communion, d'abord, il faut pouvoir l'organiser, il faut être tout seul, il faut ne pas devoir sortir de l'église tout de suite. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place pour qu'il y ait ce quart d'heure, ces 15 minutes d'action de grâce après la communion. Donc, déjà, une belle quantité de minutes qui sont offertes au Seigneur Jésus. Et on a envie, là, encore une fois, de rétorquer un peu au Père Faber. Écoutez, c'est déjà pas mal. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a l'habitude d'avoir ce quart d'heure entier consacré à l'action de grâce, ne venez pas trop le chatouiller quand même en lui disant que ce qu'il fait de ce quart d'heure, c'est vraiment complètement inintéressant, ennuyeux, fatigant, stérile. Néanmoins, le Père Faber veut souligner que si nous donnons par pure grâce du Seigneur ce quart d'heure à l'action de grâce après la communion, nous devons absolument le valoriser. S'il est là, il dit que c'est affligeant. C'est affligeant si nous en faisons n'importe quoi. Nous ne trouvons rien à dire, poursuit le Père Faber. Notre cœur est sec. Nous ne saurions recevoir une plus grande faveur en ce monde. Chaque fois que nous communions, ce prodige devient plus étonnant. Ce prodige dont il parlait au début, le don miraculeux que le Créateur fait de lui-même dans la communion. Donc, chaque fois que nous communions, eh bien, si les choses se passent bien, nous sommes un peu plus étonnés par le mystère de la communion. Si les choses se passent bien, non pas habitués, non pas routiniers, non pas blasés, mais étonnés. Étonnés, émerveillés. La merveilleuse grâce, Amazing Grace. Tant notre tiédeur et notre ingratitude font de l'amour qu'il continue à nous porter en venant quand même à nous dans la communion, font chaque jour une merveille plus étrange de cette merveille. Il est venu dans l'Eucharistie, dans la communion, celui qui doit être notre joie dans toute l'éternité, et nous n'avons rien à lui dire. Nous nous ennuyons en sa compagnie. Nous nous sentons soulagés quand nous le croyons parti. Alors là, c'est une expression qui demande un tout petit peu de développement. Nous nous sentons soulagés quand nous le croyons parti. Ça fait partie des questions qui, visiblement, avaient beaucoup d'importance dans ce monde des théologiens qui redécouvraient saint Thomas d'Aquin, qui s'en émerveillaient, cette idée de la durée de la communion eucharistique. Combien de temps dure la communion eucharistique? Pendant combien de temps, après que nous ayons mangé le corps du Christ, pendant combien de temps le corps du Christ est sacramentellement présent, sacramentellement communié, comme il y a cette présence permanente, substantielle, dans le tabernacle des hosties? Pendant combien de temps dure cet état de communion, cet état de présence eucharistique du corps de Jésus? Selon les opinions théologiques, cette présence dure plus ou moins longtemps. Alors, les opinions théologiques, finalement, elles vont se résumer à deux. Il y aura une opinion qui va considérer que la présence réelle du Seigneur Jésus est liée à la présence, si on veut, de la moindre particule des accidents de l'Eucharistie, moindre particule des accidents du pain ou du vin. Vous avez une autre grande école théologique qui va dire qu'il faut qu'il y ait une présence en même temps du symbole du pain et du vin. Il faut que le pain représente du pain. Et une micro-miette de pain ne peut plus représenter le mystère du pain. Comme une goutte trop petite des accidents, des apparences, des espèces du vin ne représentent plus la réalité du vin. Alors, selon les options, la présence du Seigneur Jésus après la communion va être un petit peu plus longue ou un petit peu moins longue. Et lorsque, parce que les espèces sont consommées, elles sont digérées, si vous voulez, même si le mot, d'abord, est un petit peu choquant et d'autre part n'est pas tout à fait assez précis du point de vue de ce que nous connaissons du mystère de l'incorporation d'un élément étranger à notre propre personne. Lorsque les choses sont digérées, et les choses, ce sont les espèces eucharistiques, eh bien, nous pouvons dire que Jésus est parti, voilà, que le corps de Jésus est parti, que le sang de Jésus est parti. Voilà pourquoi il écrit « Nous le croyons parti ». Alors, il est parti du point de vue de la présence des espèces eucharistiques, mais évidemment, cette présence est au service d'une autre présence. Voilà pourquoi nous le croyons parti seulement. En fait, il est présent spirituellement comme fruit de la communion eucharistique. Mais il y a toute cette méditation sur, encore une fois, cet accablement, tellement la foi en la présence réelle rend forte ce mystère de la présence et du mystère de la communion, accablement, et après, le soulagement. Voilà. Mis en présence d'un si grand mystère, un si grand sacrement, eh bien, il peut y avoir cette réaction en partie étonnante, en partie difficile à comprendre, de l'accablement suivi d'un soulagement. Voilà. Nous nous sentons soulagés quand nous le croyons parti. C'est encore une fois fait exprès pour nous choquer. Nous avons été polis envers le Seigneur Jésus. Nous lui avons demandé sa bénédiction comme à un supérieur, mais du reste, nous ne lui avons guère montré que de la politesse, tout au plus du respect. Voilà. Comme si nous étions vraiment gênés aux entournures face à cette réalité de la communion eucharistique à Jésus lui-même. Non pas à un représentant du Seigneur Jésus, non pas un représentant du Créateur, mais au Créateur lui-même, le Dieu trois fois saint, l'Éternel, le Tout-Puissant, notre Maître et Seigneur. Donc nous nous demandons la bénédiction comme à un supérieur, nous essayons d'être polis, nous essayons d'être respectueux, mais ce n'est pas cela que demande le Seigneur Jésus, et ce n'est pas cela qu'appelle la communion. À quoi bon exhorter les hommes à adopter différentes manières de rendre des actions de grâce à Dieu en personne, quand la visite de Dieu lui-même, du Seigneur Jésus lui-même, peut à peine arracher une seule action de grâce? La politesse, le respect, n'est pas une action de grâce. Ce n'est pas un merci du plus profond de son cœur. Ce n'est pas une grande joie, ce n'est pas un grand amour d'action de grâce, puisque ce que nous a dit le Père Faber auparavant, c'est que l'action de grâce est portée par l'amour, pas par l'intérêt, pas par les arrière-pensées. Quand on dit merci de tout son cœur, ce n'est pas pour obtenir plus de choses après, c'est simplement parce qu'on aime la personne et qu'on a envie de lui dire qu'on est tellement heureux que son amour existe et que son amour pour nous existe. Il vient en personne et ça ne nous arrache pas une authentique action de grâce. L'action de grâce semble n'avoir plus qu'un seul asile sur la terre, et c'est la communion eucharistique, et pourtant, même là, l'action de grâce n'est pas là. On est un peu frappé par l'ensemble du discours du Père Faber, mais il a vraiment comme intention de nous faire faire un bel examen de conscience sur ce que nous vivons dans l'action de grâce après la communion. Il le fait avec ses expressions personnelles, mais avec une orientation avec un but très très précis, que l'action de grâce mérite vraiment son nom et que ce soit un moment vraiment d'amour très très profond et d'amour à l'égard du Seigneur Jésus, notre Maître Seigneur, mais aussi notre Rédempteur, mais aussi celui qui a voulu être notre frère en humanité pour nous permettre de communier avec le Père. Il faut que ces actions de grâce, après la communion, surtout, ne deviennent pas inutiles. Et elles auront au moins cette utilité-là, ces actions de grâce, telles que le Père Faber nous les présente à ce moment de son livre, elles auront au moins cette utilité de nous manifester à quel point nous tenons peu au Seigneur Jésus. Parce que nous ne savons pas lui dire merci pour son Eucharistie. Et nous ne savons pas lui dire merci comme il faudrait pour ces instants de communion eucharistique. Et je vais vous laisser, juste avant la pause musicale, avec une de ces phrases dont le Père Faber a le secret. Si nous pouvions recevoir sa grâce sans le recevoir lui-même, ce serait précisément la religion de notre cœur. Alors, ce qui signifie que si c'est nous qui avions inventé la religion catholique, eh bien, nous aurions préféré que l'Eucharistie nous communique la grâce de Jésus, mais pas Jésus lui-même. Parce que c'est trop fort, parce que c'est trop grand, parce que, pour le dire avec nos mots d'aujourd'hui, c'est trop difficile à gérer, que ce soit lui-même qui vienne en personne. Voilà, je me permets de vous laisser quelques instants avec la pause musicale sur cette phrase étonnante de Frédéric Faber. Je t'adore en te donnant tout mon cœur, Dieu vraiment caché, qui sous ses humbles espèces te cache vraiment. Mon cœur se donne tout entier à toi, car en te contemplant, il défaille totalement. Voilà, c'est la Dorothée, un merveilleux choix qui n'est pas de moi, hein, si je ne me permettrais pas de faire autant de compliments. Donc ce chant de la Dorothée dévotée, et qui rejoint ce que nous sommes en train de dire avec ce mystère de notre cœur qui défaille face à la présence du Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Seigneur Jésus, tu sais tout cela, c'est-à-dire cette bizarrerie de notre cœur, et pourtant tu demeures dans le tabernacle. Donc je reprends un instant cette idée du Père Faber. Si c'était nous qui avions inventé la religion catholique, eh bien très probablement, nous ne serions pas laissés aller aussi loin que le Seigneur est allé loin dans l'Eucharistie, et nous nous serions contentés des dons de Dieu, et non pas de Dieu lui-même dans l'Eucharistie. Parce que si c'est Dieu lui-même, si c'est le Créateur en personne, si c'est le Christ ressuscité en personne, auquel nous communions dans l'Eucharistie, alors notre action de grâce doit être la plus parfaite possible. Alors il doit se passer quelque chose de très grand, de très infini, dans les minutes qui suivent la communion à notre Créateur et Rédempteur en personne. Pour nous consoler, le Père Faber dit, « Il n'est pas de difficulté qui se fasse plus généralement sentir que celle de faire une bonne action de grâce après la Sainte Communion. » Voilà. Tout à l'heure, c'était la plupart d'entre nous, et là, c'est la difficulté la plus générale qui existe pour tous ceux qui communient, ce serait donc de faire une bonne action de grâce après la Communion. Les écrivains spirituels nous recommandent, je le répète, de ne pas nous servir de livre, du moins dans les premiers instants qui suivent la réception du corps de notre Seigneur. Il nous assure que s'il y a dans la vie des moments où la grâce est plus abondante, plus puissante que jamais, c'est le temps où Jésus demeure dans nos cœurs, réellement présent dans le Saint-Sacrement, le temps où il demeure dans nos corps aussi. Saint Alphonse de Ligori, alors c'est un des auteurs préférés, Saint Alphonse de Ligori, je suis allé rechercher ses dates exactes. Donc il est né en 1696 en Italie et il meurt en 1787. Voilà. Tout le XVIIIe siècle en fait. C'est le grand théologien de la morale, docteur de l'Église et le grand saint patron des confesseurs avec Saint Raymond de Peignafort. Alors Saint Alphonse de Ligori n'a pas craint d'affirmer qu'une seule communion bien faite suffit pour rendre un chrétien digne d'être canonisé. Voilà. Donc il suffirait d'une seule communion bien faite. Et puis, ce serait la canonisation. Pas seulement d'être saint, il va un peu plus loin, le saint Alphonse. D'autres disent une seule communion suffit pour être saint, mais là il dit d'être un saint canonisé, donc tellement reconnaissable, tellement important que Dieu fait en sorte que ce saint-là, cette sainte aussi bien sûr, hein, là c'est dans ce sens-là que le masculin est utilisé, soit canonisé. L'action de grâce est le moment où l'âme s'identifie à celui qu'elle possède au-dedans d'elle-même, le moment où elle s'abreuve plus copieusement que jamais aux sources de la lumière et de la vie. Donc ça, c'est pour saint Alphonse. Une seule communion bien faite suffit pour rendre un chrétien digne d'être canonisé. Après, le père Faber nous parle d'un conseil de saint Philippe Néri, donc le fondateur de sa communauté, donc de reprendre la méditation qu'on a fait le matin, si on a eu le temps de faire la méditation le matin, si c'est notre habitude que le temps de l'oraison de la méditation soit le matin, donc en tout cas avant la communion, de la reprendre après la communion. Le père Faber veut être pratique, veut être concret, et il est allé chercher chez un auteur spirituel, le père Lancisius, une espèce de méthode, excusez-moi de dire les choses comme ça, alors une sorte de méthode pour faire son action de grâce après la communion. Alors, heureusement, le père Faber lui-même dit « Je désire être bien compris, je ne veux pas recommander cette méthode telle que l'auteur la donne. Elle est infiniment trop longue et trop minutieuse. » Voilà, donc comme tous les grands spirituels, le père Faber n'aime pas ce qui est trop long et trop minutieux. Voilà, avec trop de détails, trop de petit a, petit b, petit c, ce n'est pas ça la vie spirituelle et il n'y a pas de méthode précise pour faire une action de grâce qui soit sainte. Bon. Elle ne servirait qu'à refroidir la dévotion à cause du trop grand nombre d'actes qu'elle renferme. Il faut donner à notre vie spirituelle un champ plus spacieux et simplifier beaucoup l'action de grâce après la communion tout entière. Je ne donne donc cette méthode que pour fournir des matériaux. C'est une mine où chacun, suivant ses goûts ou suivant les circonstances, viendra chercher la nourriture nécessaire pour ses prières. Donc, malgré cette mise en garde, le père Faber va nous donner la méthode trop minutieuse et trop longue, un petit peu comme une boîte à outils pour trouver notre propre action de grâce telle que Dieu la veut. Les actes qui doivent suivre immédiatement la communion eucharistique sont les actes d'humilité. C'est le grand 1 de la méthode. Donc, cette proposition, juste après avoir reçu le Seigneur Jésus dans la communion eucharistique, l'humilité, la première chose d'humilité. Alors, c'est un peu comme le quart d'heure avant de célébrer la messe et après avoir célébré la messe, avant la communion, toutes les liturgies de toutes les familles liturgiques donnent des prières d'humilité. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Voilà. Donc, ce qui se passe juste après ressemble farouchement à ce qui doit se passer juste avant. Nous devons nous humilier devant Dieu, le vrai Dieu, notre grand Dieu, qui vient à nous et trouver des chemins pour être dans cette grande attitude d'humilité, humilité remplie d'amour. Alors nous pouvons penser au péché de notre vie passée, ça peut paraître étonnant à ce moment-là, mais aux imperfections, à la tiédeur de notre vie présente. Nous pouvons repenser à notre condition de petite créature face à la divinité du Seigneur Jésus, mais surtout penser aux perfections de Dieu et aux perfections humaines du Seigneur Jésus. Voilà, cet acte d'humilité. Alors, peut-être qu'on peut pencher davantage pour être dans cette attitude d'humilité à contempler la grandeur et la beauté du Seigneur Jésus, plutôt que d'utiliser ce moment-là pour penser aux péchés que nous avons commis dans les jours ou dans les heures qui ont précédé la communion. C'est peut-être plus pertinent. Mais ce qu'on peut vraiment retenir comme belle attitude de fond, c'est cette grâce d'humilité. Cette grâce d'humilité qui, évidemment, peut, voire doit prendre une grande coloration mariale. L'humilité de la Sainte Mère de Dieu, l'humilité de la Vierge Marie, quand elle venait de recevoir la communion. Puisque la tradition unanime de l'Église nous fait méditer sur les communions eucharistiques de la Vierge Marie. Et sur le fait que il y avait quelque chose de l'ordre du Magnificat après chaque communion eucharistique de la Vierge Marie. Bien sûr, l'Église ne s'engage pas en disant que la Vierge Marie priait le Magnificat après chaque communion, que c'est quelque chose de historiquement, scientifiquement prouvé, mais que le Magnificat qui nous est donné à nous comme un moyen merveilleux de prolonger notre action de grâce après la communion, le Magnificat avait cette place dans la vie eucharistique de la Sainte Mère de Dieu. Et le Magnificat comme chant d'humilité est un instrument divin incomparable pour entrer dans cette humilité mariale, dans cette humilité de l'accueil du corps du Seigneur Jésus, du corps et du sang du Seigneur Jésus. Premièrement donc, l'humilité. Deuxièmement, les actes d'adoration. Voilà. On pourrait faire se confondre les deux, mais alors, au risque d'être minutieux, eh bien, nous pouvons suivre là, l'écriture du Père Faber et puis distinguer entre l'humilité du cœur et ensuite l'adoration du cœur. Donc, acte d'adoration. Adorer la très sainte Trinité dans la divine Eucharistie. Alors, c'est tout le dogme de la concomitance, donc dans la communion au corps du Christ, il y a la communion au sang du Christ, et dans la communion au corps et au sang du Christ, il y a la communion à l'âme du Christ et la communion à la personne du Christ, donc à la divinité du Christ. Et parce que les trois personnes de la Sainte Trinité, lorsqu'elles œuvrent à l'extérieur d'elles-mêmes, sont toujours unies, il y a la présence de toute la Sainte Trinité par ce mystère de la concomitance. Donc parce que le Verbe fait chair est là, le Père et le Saint-Esprit sont là. Ce qui déclenche cette adoration de la très Sainte Trinité dans la divine Eucharistie. Et en même temps, dans un même mouvement porté par le Saint-Esprit, l'adoration de la sainte humanité de Jésus présent au-dedans de nous à ce moment précis. C'est toute la sainte humanité du Seigneur Jésus qui est là en nous. C'est vraiment cet acte d'adoration qui va montrer la route, si on veut, de l'amour, comme il doit être au moment précis de la communion eucharistique. Et alors, l'auteur que veut suivre le père Faber rajoute une troisième adoration, qui est un peu dépaysante, qui est étonnante mais intéressante. Donc, en même temps, l'adoration de l'humanité du Seigneur Jésus qui est présente dans le tabernacle où on garde le Saint-Sacrement. Donc, on ne pense pas seulement à notre communion à nous, à ce mystère de présence réelle de l'Eucharistie. On va être en état d'adoration pour les présences eucharistiques du Seigneur Jésus qui sont plus proches de nous pour l'instant, donc dans les frères et les sœurs qui viennent de communier. Et ça, c'est quelque chose de très beau, parce que ça évite cette espèce de centrement sur soi, uniquement Jésus et moi et Jésus, même si ça peut avoir une légitimité, mais il y a aussi une adoration pour la présence de Jésus dans tous les autres qui viennent de communier, et puis la présence qui demeure dans le tabernacle. Donc cette volonté d'être en état d'adoration. Il nous faut être dans cette adoration aussi, pleine de respect, pleine d'amour, pleine de tendresse, pleine de douceur, pour l'âme du Seigneur Jésus, qui est en nous grâce à la communion corporelle eucharistique. Donc je vais adorer l'âme du Seigneur Jésus, resplendissante de sa sainteté, de tous ses mérites, brûlante de son amour pour le Père éternel. J'adore l'âme de Jésus. Et ensuite, j'adore le corps de Jésus, le vrai corps de Jésus, qui a souffert dans la passion, qui a été humilié dans la passion, qui a été crucifié et qui est ressuscité dans la gloire, qui est entré dans la vie éternelle de la Sainte Trinité. J'adore ce corps de Jésus qui est tellement mystérieusement présent en moi, et grâce à cette adoration, j'entre dans l'action de grâce. Une adoration qui, évidemment, comme l'humilité tout à l'heure, est teintée d'action de grâce. Et bien, je ne sais pas quand aura lieu votre prochaine communion eucharistique, mais nous pouvons prier le Saint-Esprit de nous aider tous les uns les autres à avoir un soin particulier de notre prochaine action de grâce après la communion eucharistique.
Merci beaucoup, Père.
En grande communion.
Tout à fait, en union prière.
Merci. Et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Vous voyez, comme quoi il faut rester prudent.
Effectivement, merci.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.